suis arrêté dans le bus, hein, avec l'Alliance, hein, à partir du chapitre 19 du livre de l'Exode, et ça va durer jusqu'au chapitre 24. Et au cœur de l'Alliance, hein, qui est... Au cœur de l'Alliance, il y a les 10 paroles. Et que Moïse va répéter donc au peuple, tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Bon, vous avez vu ma réaction, hein, par rapport à cela.
Entendu.
Ensuite, le texte nous dit que Moïse monte dans la montagne 40 jours, 40 nuits. Hein, toujours ce fameux chapitre, ce fameux chiffre 40, hein, qui est un chiffre parfait dans l'écriture, c'est le temps d'une génération. C'est pas 39, c'est pas 41. Et Jésus n'échappera pas à cela dans le récit des tentations. Hein, lui-même, 40 jours, 40 nuits. Quand il eut fini de parler avec Moïse, c'est le Seigneur, sur le mont Sinaï, le Seigneur lui remit les deux tables, donc c'est le passage à l'écriture, les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Voilà. Quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, le peuple s'assembla auprès d'Aaron et lui dit: « Alors, fais-nous un Dieu qui nous aille devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Voilà, l'absence. Hein? L'absence du conducteur du peuple, absence aussi du législateur, bref. Cette durée, qui est une totalité, devient intenable. Et au cœur de cette absence, ben, poser quelqu'un, remplir ce vide. Et là aussi, on peut réfléchir pour nous-mêmes. Hein? Ce qu'on peut appeler, que certains auteurs appellent l'absence de Dieu, l'absence de l'autre, hein? Cette espèce de... Hein, de béance en nous, et puis on peut remplir cela avec beaucoup de choses. C'est ce qui se passe bien aujourd'hui. Avec le fric, avec l'alcool, avec la drogue, avec, etc., qui révèle toujours hein, une béance, une faille en l'être humain. Donc ici, c'est au niveau communautaire. Donc ici, déjà, dans cette décision... Ils se mettent hors alliance. L'alliance vient juste d'être fondée et est déjà rompue. Dans la mesure où ce vide, cette absence devient intolérable. Ce Moïse, nous ne savons pas où il est. Et dans la tradition juive, hein, ça perdurera dans la mesure où il n'y a pas de tombeau, Moïse. Il n'y a pas de mausolée, Moïse. Donc, des générations en génération, ben, qu'est-ce qui va rester de Moïse, à votre avis? Qu'est-ce qui va rester?
La tradition.
Non, la transmission orale.
Ah, certainement pas. Il va rester le livre. Il va rester le livre, le livre de la parole. Donc les juifs qui vont être envoyés en exil, etc., dans les, hein, la Gola, ce qu'on appelle, ils partiront avec le livre. Et ils pourront réentendre ce que Moïse a entendu, parce que c'est consigné dans le livre. Et ils pourront voir aussi, de Babylone ou d'ailleurs, ce que Moïse a vu sur le mont Nebo. Et oui. Ma grand-mère, moi, elle me faisait la catéchèse étant petit. Hein? Donc, on parlait de Moïse, bien sûr, du mont Nebo. Elle me dit, tu vois la terre promise? Non, je vois rien. ferme les yeux, tu vois Naphtali, tu vois Zébulon. Je dis, non, je vois pas grand chose. Ferme plus profondément. Étonnant. Le Negev, etc. Comment c'est ce que tout juif, qu'il soit au bout du monde ou ailleurs, peut voir par la médiation du livre. Vous voyez bien. Et ça, c'est extrêmement essentiel. Alors, pour l'instant, ben, la solution, c'est de remplir ce vide. Alors, fais-nous un dieu. Fais-nous un dieu. Hein? Ôtez donc à Aaron, et là, les prêtres en prennent un sacré coup, hein? À Aaron, le frère de Moïse, hein? Leur répondit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, vos filles, etc., apportez-les-moi. Tout le peuple ôta les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, ils les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le fit fondre dans un moule et en fit une statue de veau. Alors ils dirent, voici ton Dieu Israël, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Voilà. Ça, c'est le texte matrice, au moins pour une école théologique, hein, biblique, qui s'appelle le Deutéronomiste, peu importe, oubliez ça, où le péché par excellence, c'est l'idolâtrie. Et ça, c'est le texte matrice, hein, qui sera repris, relu, réécrit, hein, dans toute la tradition, hein, jusqu'au prophète. C'est-à-dire l'idolâtrie, c'est ce qui me détourne de Dieu. Et là encore, que je vous l'ai dit dans le bus, on est dans un monde, chez nous, où l'idolâtrie bat son plein. Vraiment. Et même chez les chrétiens. Hein? Les petits gris-gris, hein, qu'on met à droite, à gauche, etc. Hein? Regardez bien. Voilà. Donc, devant cela, le Seigneur avertit Moïse, descends, car ton peuple, il dit plus mon peuple, ton peuple, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est perverti. Ils n'ont pas tardé à s'écarter de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils ont offert des sacrifices et ils ont dit, voici ton Dieu Israël qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Voilà la réaction, hein, comment réaction de Dieu qui veut détruire ce peuple, un peu comme ce que je vous ai dit au moment du déluge, hein, le mal est partout, le regret du Seigneur d'avoir créé l'humain, l'humanité, qui se pervertit au fur et à mesure, sauf un, Noé. Voilà, et Noé sauve le monde. Alors ici, même réaction de la part du Seigneur. Même réaction, je vais te détruire maintenant, laisse-moi, dit-il à Moïse, ma colère va s'enflammer contre eux, je les exterminerai, mais de toi je ferai un grand peuple. On retrouve la problématique qu'on a dans Noé. C'est-à-dire que l'humanité va renaître à partir d'un seul, et sa femme et sa famille. Eh bien ici, même décision de la part de Dieu. Mais là, au contraire de Noé, Moïse intercède. Voilà, il est vraiment celui qui intercède pour... Moïse s'efforça d'apaiser le Seigneur son Dieu. Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflamma-t-elle contre ce peuple, contre ton peuple, le possessif est du côté de Dieu, c'est une fois, hein, que tu as fait sortir du pays d'Égypte. C'est très fort parce que Moïse se retire, hein, tout en parlant, hein, il ne s'attribue pas cette sortie. Le maître d'œuvre de cette sortie, c'est le Seigneur lui-même. On peut dire que là, l'intercession est très très forte. Pourquoi les Égyptiens, dirait-il, c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir pour les faire périr dans les montagnes et les exterminer de la face de la terre. Reviens de ta colère. Renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. Souviens-toi. Ah, c'est Moïse qui redonne mémoire, hein, qui remet Le Seigneur, dans la mémoire, souviens-toi de tes serviteurs. Qui ? Abraham, Isaac, Jacob. Toujours. Que tu as juré par toi-même et que tu as dit, je multiplierai votre postérité. Donc ça reprend les paroles qu'on a dans le livre de la Genèse. Donc Moïse descend avec les tables, les deux tables, l'une, je l'ai dit un peu hier dans le bus, je n'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, qui concerne donc mon rapport à Dieu, au centre, le positif, c'est-à-dire de se souvenir que tu as été esclave, etc., donc la loi du sabbat, la loi aussi pour les parents, honore ton père, ta mère, c'est pas de les encenser, mais parce que ce sont nos racines, ce sont eux qui nous ont donné la vie, etc., etc., donc tu vivras de longs jours. Et ensuite, on a la deuxième table, qui concerne le prochain. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, pas d'adultère, etc., etc. Donc ces deux tables-là, écrites, dit bien le texte, du doigt même de Dieu. Alors Moïse y descend. Il descend, accompagné de Josué, etc., peu importe. Et qu'est-ce que va faire Moïse? Et c'est capital. C'est ce qui fait qu'on n'aura pas le Coran. C'est capital. Qu'est-ce qu'il fait? Ça m'a valu une psychanalyse qui m'a duré quelques années. Qu'est-ce qu'il fait?
Il casse
les tables de la loi. Qu'est-ce que ça signifie? Ben qu'on n'aura jamais l'original. On n'aura jamais l'original, on aura la deuxième écriture. À savoir que Moïse va repartir à la montagne et va réécrire la première loi. Mais nous n'avons que la deuxième loi. Et c'est ce qui fait que désormais, l'écriture ne sera toujours que réécriture, toujours seconde. Alors, je vais vous renvoyer à des choses plus simples. Qu'est-ce que vous faites quand vous priez un texte? Dites-moi voir. Quand vous prenez une page d'évangile, quand vous prenez tel ou tel autre texte de l'écriture, peu importe. On vous donne des points, se mettre en présence, rapporter l'histoire, premier point, deuxième point, troisième point, terminer par le colloque, l'action de grâce. Là, je parle comme un jésuite. Là, je parle de la tradition. Bon. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être neutre devant le texte. Mais vous l'avez réécrit. Réécrit avec votre propre histoire. Ce n'est pas de faire une copie. Il a été réécrit. Donc, sans le savoir, vous faites ce qu'on appelle de la deutéronomie. C'est pas une maladie, il n'y a pas de. C'est ce qu'on appelle en termes techniques une deutérose. Deutéronome, ça veut dire quoi en français?
Deuxième.
Ça veut dire deuxième loi. Donc non pas une autre. Non, c'est réécriture de la loi. D'où deuxième loi. Donc voyez bien, ça peut changer votre regard. Quand. Ça permet l'actualisation, ce qui est impossible avec le Coran. Un Coran est intouchable, dans la tradition au moins sunnite. C'est les chiites, c'est un peu plus compliqué. Mais dans la tradition sunnite, qui sont la majorité, la grosse majorité, on ne touche pas au texte, c'est écrit. Avec l'écriture, on ne peut pas dire ça. Et je me rappelle un jour, j'avais été invité au Mont Carmel avec un rabbin et un imam, pour parler un peu de la geste d'Abraham, etc. Et l'imam, il voit avec ma Bible, le rabbin avec sa Bible, c'était un grand colloque international, et j'avais été envoyé là-bas. Bon, ça ne me plaisait pas trop, mais enfin, j'y étais quand même. Et puis, le imam, il s'est réjoui, etc., et en disant aux gens, moitié anglais, moitié hébreu, tout ce que vous voulez, voyez, nous sommes. Il monte le rabbin, il monte le curé, enfin pas le curé, le prêtre religieux, et lui dit, vous voyez, nous sommes la religion du livre.
Non,
non, non. J'ai tout de suite arrêté le rabbin, il a bu du petit lait.
Non, mais écoute,
non, non, alors, hein, j'ai dit non, nous, le rabbin et moi, nous ne sommes pas une religion du livre.
Exactement.
Bon, l'autre a fait la moule, il se rendait bien compte que, non, nous, lui, moi, c'est une religion de la parole, portée par le livre. Mais ce n'est pas une religion du livre. Alors là, scier le mec. J'ai eu de l'audace de faire ça, j'avais plein de gens, hein, etc. Quelqu'un traduisait derrière moi pour bien que les gens comprennent, etc. Hein, pour dire, vous voyez, alors on ne peut pas faire n'importe quoi avec le livre, mais vous voyez bien, ça peut devenir quelque chose qu'on ne touche plus. Hein, ça, c'est le rapport au sacré, hein, les petits veaux d'or. Hein, on ne touche pas à ça. Hein, avec Francis, on pourra raconter des tas d'histoires. Hein, le linge doit bien être là, ah oui. Et puis on doit bien mettre les... Enfin, etc. Enfermé dans le sacré, sans plus lien, sans aucun lien avec l'histoire, avec l'actualité, avec ce que nous vivons. Vous comprenez ? Alors ici, le problème est réglé. À partir de ce moment-là que Moïse réécrit la Torah, et la tradition dira, l'auteur de la Torah, c'est Moïse, qui la reçoit sur le Sinaï. Hein, c'est une grande fête dans le judaïsme, hein, Matan Torah. Hein, grande, grande fête, où tout le monde danse dans, hein, vers, naturellement vers le Kotel, vers le mur, mais aussi dans les rues, dans toutes les yeshivas, les yeshivotes, etc. Hein, et tout le monde sort avec les rouleaux, hein, les rabbis. Hein, et puis ces écoles qui tournent, qui dansent, etc. Ça, c'est... Voilà. Et ça, ça se passe quand, ça ? Quelle fête ? Là, je ne t'ai pas demandé à toi.
Tu n'as pas levé ton doigt.
Non, mais
c'est parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai dansé avec les juifs. Ah,
la fête de Shavuot. Tu te gardes ton
en
terme
plus, tu
grec.
Vois exactement.
Donc, la fête de Pentecôte pour nous, hein, c'est ce jour-là, le judaïsme célèbre le don de la loi donné à Moïse. Et les chrétiens célèbrent quoi ?
Dans l'esprit.
Le don de l'esprit. Mais là, je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus, mais c'est une fête extraordinaire, dans la mesure que même, quand Moïse reçoit la Torah, hein, la Torah orale et la Torah écrite, c'est compliqué dans le judaïsme, hein, et ben, les nations sont aussi présentes. Les nations ne sont pas éliminées. Hein, comme on le croit toujours que c'est un îlot, les juifs... Hein, voilà, ils ont du mal, il ne faut pas les assimiler, etc. etc. Non, dans les grands moments, hein, même à la Pâque, hein, voilà, on laisse toujours une porte ouverte dans certaines familles pieuses. S'il passe quelqu'un, un étranger, on ne peut pas le laisser dehors. Donc on laisse la porte ouverte, enfin, etc. Il y a plein de choses comme ça pour dire. Hein. Donc toujours ce rapport au livre. Donc un moment extrêmement important pour les biblistes, hein, pour un peu... comprendre que ce que nous avons entre les mains, hein, c'est une réécriture continuelle, hein, en fonction de l'histoire, en fonction des événements. Donc c'est l'actualisation permanente de la parole. C'est ce que vous faites quand vous priez. Moi ce matin en célébrant, c'est aujourd'hui que j'ai célébré. Avec vous, pour vous, en tenant compte de ce que nous vivons. Alors je fais ce que je peux, mais... Ça, ça m'habite. Donc, je déborde le rituel. Alors, je ne vais pas faire n'importe quoi non plus. Mais je le simplifie pour que chacun puisse s'y retrouver. Hein. Le danger dans notre église, hein, et Francis pourra en parler beaucoup mieux que moi. Moi je ne suis pas prêtre du diocésain, de paroisse ou autre. Hein, je suis qu'un religieux, un petit religieux. Hein. Bah, la tentation du ritualisme aujourd'hui.
Ah oui, ça.
Et surtout chez les plus jeunes, on en parle souvent avec Francis. Alors bon, hein, l'église en a vu d'autres, vous en faites pas. Mais bah, y a cette tentation-là, c'est-à-dire c'est ce qui rassure. C'est le veau d'or. On remplit le vide, on remplit le manque, tout ce que vous voulez. Très bien. Voilà la petite chose que je voulais vous dire. Une deuxième chose, c'est de voir. Que tout ce qu'on a vu, à partir du chapitre 15 de l'Exode, avec l'histoire de l'eau de Mara, l'eau amère, l'amertume, avec la manne. Hein, la manne, voilà, la limite qui est posée au don, ne pas faire de réserve pour le lendemain, etc. Donc là encore, hein, donc s'appuyer sur la parole seule, donc qui révèle en fin de compte le doute de cette parole. Et ensuite les eaux de Massa Meriba, hein, voilà, épreuve, querelle, etc. Toujours. Cela, ensuite, vous entrez dans l'alliance, sa rupture d'alliance, telle que je viens de le lire avec le chapitre 32. Et puis vous avez, donc, dans la suite du livre de l'Exode, les plans du temple. Donc, vous voyez bien, quand un juif est en exil, hein, c'est des choses que j'ai vécues. Hein. On n'a plus besoin de temple. On n'a plus besoin de temps. Et pourquoi après 70, hein, le deuxième temple détruit par Titus en 70 après Jésus, jamais le judaïsme officiel, je ne parle pas des fous, hein, ne songera à bâtir un troisième temple. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas besoin. Parce qu'il est dans le livre. Il est dans le livre, vous avez tout, même les couleurs des chaussettes des grands prêtres. Rien ne ment, rien ne ment. Donc il y a les plans qui seront donnés par Moïse, et puis si on va dans le livre des Chroniques, donc un peu plus loin, ben, les plans seront repris par David, etc. Donc vous voyez, c'est ça le livre. Donc pourquoi je vais me... Non, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc c'est le temple, le véritable temple, c'est le livre, non pas avec des pierres, mais avec des mots, avec des paroles. Vous êtes, Pierre reprend ça hein, dans l'épître de Pierre, hein, vous êtes les pierres vivantes. Ce n'est pas les cailloux, on s'en fout les cailloux. Hein, c'est le croyant qui devient. Alors, tout cela, après vous avez le livre du Lévitique, là, vraiment les prescriptions, hein, les fameux commandements qu'on appelle, hein, la tradition rabbinique hein, retrouve 613 commandements. Hein, 613 commandements.
Beaucoup, ça.
Ben, on a ça au cœur de l'évangile. Hein. Au cœur de l'évangile. Qu'est-ce que tu lis dans la loi? Hein, il dit ça au légiste. Alors le légiste hein, a posé la question à Jésus. Comment toi, maître, rabbi, tu peux résumer la Torah et ses 613 commandements? Alors, on ne peut pas les raconter comme ça les uns après les autres, c'est impossible. Alors, ça va se ramener à deux seuls commandements qui en sont un seul. L'amour de Dieu, l'amour du prochain comme toi-même. Et ça, ce n'est pas Jésus qui l'a inventé, hein, c'est un grand maître hein, du 1er siècle, deuxième moitié du 1er siècle avant Jésus, presque contemporain de Jésus, et qui s'appelle Hillel, hein, qui est la branche ouverte hein, du judaïsme. Contre une autre école qui est complètement fermée, hein, qui est celle de Shammai. Alors, peu importe, je ne peux pas entrer dans les détails, hein, mais pour voir comment Jésus lui-même s'inscrit hein, dans un judaïsme ouvert. Non pas, il n'est pas tolérant pour être tolérant, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de complaisance hein, de la part de Jésus. Mais il y a une ouverture, hein, un accueil, etc. La Torah, c'est cela. La loi inscrite dans le cœur de Dieu, c'est tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc ça reprend ce que dit le Shema Israël. Et puis on rajoute donc ce qui apparaît dans le Lévitique. Hein, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors ça revient plusieurs fois hein, dans l'Évangile, hein, dans ce dialogue entre le légiste hein, et Jésus. Et le légiste il dit, oui, c'est tout à fait ça, etc. Et Jésus lui dit, allez, voilà, t'es pas loin du royaume. Vas-y. Donc il le récupère. Alors ensuite, après Lévitique, on entre dans le livre des Nombres. Là, c'est un livre extrêmement compliqué. Il reprend des lois, il reprend des traditions. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que l'autre versant, hein, un peu comme ça, premier versant, on va vers le Sinaï, À partir du chapitre 11, on va sortir du Sinaï. Donc, c'est la route qui repart. Et entre les deux, vous avez tout ce bloc sinaïtique, qu'on appelle. Et c'est là qu'est donné le Lévitique, c'est là qu'est donné un certain nombre de lois. Et on reprend la marche à partir du chapitre 11, par là, du livre des Nombres. Et on retrouve les mêmes défis. On retrouve le problème de la manne. La manne et l'écaille. Les eaux de Meriba, on les retrouve de l'autre côté. Par là. Voilà. Il n'y avait pas d'eau pour la communauté, alors ils s'ameutèrent contre Moïse et Aaron. Le peuple s'en prit à Moïse. Que nous n'avons pas péri, nous n'avons péri, disait-il, comme nos frères ont péri devant le Seigneur. Pourquoi avez-vous conduit l'assemblée du Seigneur en ce désert pour que nous y mourions? Ils ne parlent toujours, les réactions sont toujours, non pas par rapport à la vie, mais toujours par rapport à la mort. Voilà. Tu nous emmènes mourir, alors qu'on pouvait très bien mourir tranquille. Un beau tombeau, bien
vrai. C'est vrai. Tranquille.
Ça, c'est quelque chose qui me frappe de plus en plus. En tant qu'humain, ce que nous portons, c'est une sorte de nostalgie, etc. De revenir derrière, de s'appuyer que ceux que nous croyons, que nous savons, ce qui nous a appuyé, pris et autres. Et c'est là justement que Moïse va pêcher. Moïse prit le rameau, donc son bâton, de devant le Seigneur, comme il lui avait commandé. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher. Puis il leur dit, écoutez donc, rebelles, ferons-nous jaillir pour vous de l'eau de ce rocher? Moïse leva la main et avec le rameau frappa le rocher par deux fois. Là, il pète un plomb. Alors l'eau jaillit en abondance, bien sûr. La communauté et son bétail purent boire. Le Seigneur dit alors à Moïse et à Aaron, puisque vous ne m'avez pas cru capable de me sanctifier aux yeux des fils d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je vous donne. Donc c'est ce que là où on était dans cette assemblée. Donc il y aura le loin, mais toi. Même Moïse n'échappe pas. La parole seule suffit. Comme on dit de temps en temps, il en rajoute, etc. Ça signifie beaucoup de manque de confiance, etc. Donc ensuite, vous avez le passage par Édom, etc. La mort d'Aaron. Voilà. Et puis on arrive à un autre épisode que vous connaissez moins bien, malheureusement, enfin moins certain. Ils partirent de hors la montagne pour la route de la mer, de Chouf, peu importe, pour continuer le pays d'Édom. En chemin, le peuple perdit patience. Toujours, tout le temps. Et aujourd'hui encore. Il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi avez-vous fait monter d'Égypte pour mourir dans ce désert? Car il n'y a ni pain, ni eau. Nous sommes excédés de cette nourriture de famine. Dieu envoya alors contre le peuple les serpents brûlants. Le narache. Voilà. Le narache ou le safache. Dont la morsure fit périr beaucoup de monde en Israël. Le peuple vient dire à Moïse, nous avons péché en parlant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse intercéda pour le peuple et le Seigneur lui répondit, façonne-toi un brûlant, un serpent, façonne-toi un brûlant que tu placeras sur un étendard. Quiconque aura été mordu et le regardera restera en vie. Moïse façonna donc un serpent d'airain qu'il plaça sur l'étendard, et si un homme était mordu par quelque serpent, il regardait le serpent d'airain et restait en vie. Voilà une tradition qui est reprise par quel évangéliste?
Jean.
Qui a dit ça?
Les gens.
Moi. T'as aucun mérite, tu sais tout par cœur.
Hein, image de l'Exode, hein, sur la manne, après la multiplication des pains, etc. Hein, donc ici, Nicodème, voilà, c'est au chapitre 3 de Jean. Hein, donc Nicodème, voilà, grand rabbi, mais c'est une belle figure, hein, c'est une figure qui reste jusqu'au terme. Hein, il fait partie du Sanhédrin. Donc c'est quelqu'un, il vient la nuit caché là, pour rencontrer Jésus, hein, maître. Hein, il lui dit, rabbi, maître. Hein, nous le savons, tu viens de la part de Dieu comme un maître. Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Voilà. Donc il y a une saine curiosité chez lui. Et c'est lui qui apportera les parfums pour la sépulture. Hein, au terme, au chapitre 19-20. Alors, etc. Donc, voilà, qui est né de l'esprit, etc. Hein, il n'est pas question. Hein, il n'est pas question. Hein. Voilà, il dit, donc c'est au verset 13, « Nul n'est monté au ciel », c'est le discours qui suit. Hein. « Comment croirez-vous ?» Donc il parle à Nicodème, mais en même temps à la communauté juive. Donc ça n'est pas « Comment croirez-vous quand je vous dirai les choses du ciel ?»« Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel. » Donc vous voyez bien ici, tout l'enjeu, c'est l'incarnation. « Le Fils de l'homme, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle. » Voilà. Hein, ce transformation. Et Paul reprend ça d'une toute autre manière. Hein, dans les premiers chapitres des Corinthiens. Hein, donc voilà l'histoire du serpent d'airain, hein, que vous avez vu. C'est pas très beau d'ailleurs. Truc en ferraille.
Vous avez qu'à aller voir votre pharmacien ou vous avez le même.
Exactement.
C'est marrant. Ça, l'apparition, je dis bien, du serpent. Oui. Apparaît dans toutes les civilisations amérindiennes, indiennes, chinoises, etc. Et la Grèce, bien sûr, avec Sérapis, Esculape, hein, dieu guérisseur. Le serpent, c'est ambivalent. Mort-vie, hein, ambivalent. Hein. On est soigné par le venin, on est guéri par le venin, etc. Donc ça fait partie du patrimoine de l'humanité. Hein. En Afrique, par exemple, ça fonctionne très très bien. Le serpent, ben oui, cette population est confrontée à longueur de temps, hein, au serpent, d'une manière très pragmatique. Hein, et si je vous mettais un serpent là, vous seriez tous envolés. Quelle est cette peur du serpent? Alors ça rejoint les archaïsmes. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire un coup. Donc le serpent, voilà, serpent d'airain, et qui sera chassé, qui sera éradiqué, brûlé. Hein, parce qu'il entrera dans le temple de Salomon, hein, et il sera vénéré comme une idole. Et c'est le roi Ézéchias, hein, fils d'Akaz, hein, c'est le contemporain d'Isaïe, hein, du premier, hein, du grand Isaïe, et qui cassera, brûlera, hein, le fameux serpent qui était devenu une idole. Donc ça fait partie des hauts lieux, etc., etc. Voilà. Après, on retrouve voilà, tous les obstacles, les Dômes, Moab. Hein, Moab, ce grand texte, chapitre 22-23, hein, qui fait appel à ses prophètes. Hein. Donc ici, à Balaam, pour maudire les fils d'Israël. Et puis c'est son âne, hein, Balaam, hein, qui le renverse. Qu'est-ce que tu vas faire, là? Vous savez, quand les hommes ne parlent plus dans la Bible, les animaux qui parlent. Et dans l'évangile, c'est quel animal Il y a un animal qui est important.
L'arbre.
Hein?
Le petit anon.
Ah, le petit anon. Où ça, t'as vu le petit anon?
Le coq.
Non, c'est le coq. C'est le coq qui réveille Saint-Pierre. Pourquoi on l'appelle réveil matin?
Pourquoi on l'appelle
le réveil matin?
Ah, réveil mais.
Ah, bah écoute, ouvre. Donc c'est bien le chant du coq qui va réveiller Pierre. Et il se souvient des paroles de Jésus. Vous voyez, ça c'est la merveille biblique. Alors j'aurais d'autres cas comme ça. Donc voilà, Balaam, etc. Et puis bon. Voilà, et après on arrive dans le livre du Deutéronome, hein, qui est donc la relecture. Donc la Deutéronomie de la loi, de la Torah, hein, c'est pour ça en français, quand on dit Torah, loi, il vaut mieux dire, quand le L est toujours majuscule, c'est la Torah. Le L minuscule, c'est une loi particulière.
Merci.
Mais en français, mais en hébreu, ça, non, en hébreu, c'est toujours la Torah.
Ok.
Qu'est-ce qu'on peut dire?